bonsoir à tous et à toutes. Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3. Et c'est les oreilles loin du front qui commencent, doucement mais sûrement.
Exactement. Alors ce soir, on a en plateau deux chercheuses, Laurine Tizi et Marie Mathieu, qui sont toutes les deux des chercheuses qui travaillent sur l'avortement. Effectivement, ça fait presque 25 ans que la loi Veil est passée. Tous les jours, on sent que c'est un sujet qui est sujet à controverse en France, mais aussi à l'étranger. Et donc, on les reçoit à l'occasion de la sortie de leur ouvrage « Sociologie de l'avortement ». C'est dans la collection « Repères de la découverte ». Et donc, on va parler de l'histoire, mais aussi de la réalité de la situation des personnes qui se font avorter, mais aussi des personnes qui sont les médecins qui font les avortements. Donc, ce sera ça dans le dossier du jour.
Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence. Tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Oh non, tu n'es pas un être. Tu le deviendrais peut-être si je te donnais asile, si c'était moins difficile, s'il me suffisait d'attendre, de voir mon ventre se tendre, si ce n'était pas un piège ou quel douteux sortilège. Non, non, tu n'as pas de nom, non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas. Savent-ils que ça transforme l'esprit autant que la forme, qu'on te porte dans la tête, que jamais ça ne s'arrête. Tu ne seras pas mon centre, que savent-ils de mon ventre? Pensent-ils qu'on en dispose quand je suis tant d'autres choses? Non, non, tu n'as pas de nom, non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Déjà, tu me mobilises. Je sens que je m'amenuise. Et d'instinct, je te résiste. Depuis si longtemps, j'existe. Depuis si longtemps, je t'aime. Mais je te veux sans problème. Aujourd'hui, je te refuse. Qui sont-ils, ceux qui m'accusent? Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence. Tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. À supposer que tu vives, tu n'es rien sans ta captive. Mais as-tu plus d'importance, plus de poids qu'une semence? Oh, ce n'est pas une fête, c'est plutôt une défaite. Mais c'est la mienne et j'estime qu'il y a bien deux victimes. Non, non, tu n'as pas de nom, non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Ils en ont bien de la chance, ceux qui croient que ça se pense. Ça se hurle, ça se souffre, c'est la mort, c'est le gouffre. C'est la solitude blanche, c'est la chute, l'avalanche. C'est le désert qui s'égrène, larme à larme, peine à peine. Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Quiconque se mettra entre mon existence et mon ventre n'aura que mépris ou haine, me mettra au rang des chiennes. C'est une bataille lasse qui me laissera des traces, mais de traces je suis faite, et de coups et de défaites. Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom.
Et vous l'avez reconnu, hein, c'est Anne Sylvestre. Donc, ça veut dire que... C'était Anne Sylvestre, pardon. Donc, ça veut dire que vous êtes bien sur Les Oreilles Loin du Front, que vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 et que ce soir, Juliette, on parle...
Effectivement, vu le titre de la chanson et le sujet, on parle de l'avortement ce soir aux Oreilles Loin du Front avec deux chercheuses que nous avons en plateau, Marie Mathieu et Laurine Tizi, qui ont toutes deux fait leur doctorat autour de questions sur l'avortement. On en parlera un peu plus profondément tout à l'heure, et on les reçoit à l'occasion de la sortie de leur ouvrage Sociologie de l'avortement. C'est un livre des repères de la découverte, et c'est un livre qui fait le point sur la recherche en sciences sociales autour de l'avortement et de son actualité, et aussi de l'histoire de l'avortement. Alors peut-être pour commencer, Laurine, toi, je crois que tu as fait une thèse sur la stigmatisation de l'avortement. Alors, est-ce que tu pourrais déjà nous dire pourquoi tu as décidé de travailler là-dessus ?
L'idée de ce travail, en fait, je suis partie du fait qu'aujourd'hui, on peut avorter, mais que quand on avorte, on se prend toujours des remarques, des reproches qui n'empêchent pas immédiatement d'accéder à l'IVG, mais qui font qu'on le vit mal. Et du coup, mon enjeu, c'était qu'est-ce qui explique que les femmes reçoivent encore ce type de remarques, etc. Et ensuite, qu'est-ce qu'elles en font et comment elles se positionnent par rapport à ça. Et donc, ensuite, j'ai construit... Ce qu'on fait en sciences sociales, c'est construire un objet. J'ai construit ça autour de la stigmatisation qui permettait d'analyser à la fois, ben, au fond, qu'est-ce qu'on reproche encore aujourd'hui aux femmes qui avortent et comment elles mettent en place, là aussi, ce qu'on appelle en sciences sociales, des stratégies de gestion du stigmate de façon à éviter d'être stigmatisées, donc soit en ne parlant pas de leur avortement, soit en parlant exclusivement à des personnes de confiance, soit en contestant ouvertement la stigmatisation, mais ça a un coût parce qu'il y a aussi des sanctions sociales quand on enfreint la norme étant de ne pas en parler, d'avortement.
Et alors, toi, Marie, donc Marie-Mathieu, tu as aussi travaillé sur l'avortement, mais d'une façon complètement différente. En plus, tu as fait un travail sur une comparaison France-Québec. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus ?
Oui, en fait, j'ai fait une thèse qui analysait les expériences contemporaines d'avortement en France et au Québec, notamment parce que je suis partie en chemin de mes études faire des études au Québec, où j'ai découvert que d'une, il n'y avait pas de délai légal tel qu'on le pense, un petit peu évident, et pas de scission entre IVG, interruption volontaire de grossesse et interruption de grossesse pour motif médical. Donc c'était quelque chose qui était très différent. Et à l'époque où je commence ma thèse, il y avait moins de 1% des avortements qui étaient faits par médicaments. Le RU486, qui est un produit français, étant totalement interdit par Santé Canada à l'époque. Donc voilà, dans cette différence était né un intérêt de ce petit pas de côté m'a permis de découvrir qu'ailleurs c'était différent et que la question de l'avortement qu'on pense régler en France depuis très longtemps, en fait, ouvre encore plein de questionnements et peut encore évoluer énormément.
Alors là, on vous reçoit pour un travail qui n'est pas du tout un travail de thèse, c'est vraiment un travail plutôt de synthèse sur toutes les travaux de sociologie de ces dernières années. Comment vous est venue l'idée de faire cet ouvrage ?
Alors, à l'origine, en fait, le livre, il est né d'une envie de... Alors, il y a plusieurs choses qui se sont mêlées. La première chose, c'était de pour moi, clôturer un petit peu un chapitre d'un sujet qui m'a passionnée pendant des années. Aussi, de faire un outil qui soit un outil de vulgarisation et qui réunissent l'ensemble des travaux qui ont été faits sur l'avortement, qui sont très éparpillés, des fois dans une littérature un peu grise ou dans des revues qui sont moins prestigieuses, l'avortement ayant jamais été un sujet qui a drainé les foules jusqu'à, on va dire, la remise en question de Roe v. Wade, ou du moins en contexte français. Donc comme moi, j'étais déjà un petit peu éloignée du terrain de l'avortement parce que mon terrain datait un petit peu, j'ai proposé à Laurine de me rejoindre dans l'aventure, hein, puisqu'elle avait comme un terrain beaucoup plus actuel et puis elle avait un autre regard aussi sur l'avortement. Donc on s'était dit que c'était plus chouette de faire un projet. Enfin, moi, j'aime beaucoup travailler au collectif. C'était plus chouette de s'embarquer à deux dans cette aventure que de le faire seule. Donc voilà.
Et juste d'un point de vue méthodologique, comment vous avez fait ? Vous avez divisé les chapitres ? Vous avez divisé la littérature ?
On a commencé par faire un gros plan ensemble, en se disant quelles sont les choses dont on a envie de parler. Enfin, même avant de faire le plan, on devait faire une note d'intention pour la découverte. Donc en fait, où il fallait positionner l'ouvrage par rapport à ce qui existait actuellement. Et en fait, il n'y avait pas grand-chose qui existait, ou alors c'était trop vieux, ou alors ça avait une orientation psychologique, voire psychanalytique, contre laquelle on, enfin, avec laquelle on n'était pas en accord. Donc il y avait un vrai intérêt à renouveler ça. Et ça, du coup, ça nous a amené à devoir nous positionner. Et dans un second temps, voilà, on a fait ce plan. Donc on a structuré nos chapitres de façon très détaillée. Et après, on s'est réparti les premières versions de chaque chapitre. Et après, on les rebossait ensemble. En fait, on est beaucoup repassé chacune sur le texte de l'autre.
Moi, je me demandais, comme tu disais, en fait, vous avez dû composer avec cette littérature un peu grise, parce que l'avortement, c'est en fait une question qui est au croisement, on va dire, de plusieurs disciplines. Et justement, vous êtes toutes les deux sociologues. Comment vous vous êtes saisies de ça? Est-ce que vous avez aussi dû vous confronter justement à comment s'est construite l'histoire de l'avortement? Est-ce que aujourd'hui, voilà, c'est surtout les études de genre, par exemple, qui se saisissent de ce sujet? Ou est-ce que c'est surtout la sociologie médicale qui se saisit de ce sujet, en fait? Ou est-ce que ça se répartit entre les deux? Est-ce qu'il y a des dialogues entre ces différents angles d'approche d'une question qui n'est pas encore complètement circonscrite dans les sciences sociales, comme vous l'avez dit, en fait?
En fait, historiquement, c'est plutôt la démographie qui s'est emparée de la question, avec une grosse enquête qui a été menée en 2001, enfin, au début des années 2000, en fait, en accompagnement de la loi Aubry-Guigou, qui a allongé le délai, recomposé l'offre hospitalière, etc. Donc là, il y a eu des grosses enquêtes démographiques, INED, INSEE, qui ont permis, en fait, de mettre en évidence que tout le monde avorte, et que malgré une meilleure couverture contraceptive, eh bien, le nombre d'avortements annuels ne diminue pas. Et en fait, ça s'explique parce que quand une grossesse est non prévue, elle est désormais plus systématiquement avortée. Donc il y a moins de grossesses non prévues qu'avant, mais celles qui continuent à être non prévues, comme la norme, c'est de faire un enfant quand on veut, eh ben, elles sont avortées davantage. Et c'est ça qui explique qu'on n'ait pas de baisse de l'avortement. Et ça, c'est un résultat qui est relativement ancien, qui a 20 ans, qui est tout à fait méconnu quand on va dans les centres d'orthogénie ou quand on discute avec des professionnels de santé. Ils nous disent, mais il y a quand même un problème avec la contraception. Les femmes, elles comprennent pas la contraception. Et c'est pas du tout que les femmes comprennent pas la contraception, même s'il y a énormément de difficultés contraceptives. C'est aussi, et peut-être même d'abord, que les normes de parentalité, comment on devient mère ou comment on ne devient pas mère, ça a changé, parce que la norme aujourd'hui, c'est de décider. Donc en fait, nous, on avait à cœur de valoriser ce résultat-là en le reproblématisant de façon plus large dans les réflexions féministes, notamment sur le travail procréatif en général et abortif en particulier.
Et pour commencer dans votre ouvrage, vous parlez de l'histoire aussi, parce que si on parle de légalisation de l'avortement, c'est qu'il y a eu une criminalisation de l'avortement, ce qui n'était pas toujours là, puisqu'on parle de démographie. À un moment donné, finalement, l'avortement, ou en tout cas, même tuer des bébés, c'était quelque chose qui n'était pas si fou, en fait. Et la criminalisation de l'avortement, c'est relativement récent dans l'histoire contemporaine.
Alors, c'est plutôt l'inverse, je dirais. La criminalisation a duré pendant très longtemps et il y a une forme de répression qui est passée par une autre forme, c'est-à-dire on a correctionnalisé, enfin, de manière à mieux condamner les femmes qui avortaient. Les évolutions, elles sont quand même assez récentes, hein. C'est les années 70 avec... ce qu'on a voulu dans l'ouvrage, notamment sur ce premier chapitre historique, c'était donner à voir aussi le fait que le droit à l'avortement et alors en France, on va le droit à l'IVG, c'est le résultat d'une lutte collective. Et en fait, on a voulu, contrairement aux histoires qui sont généralement dressées, sortir un petit peu de ces grands personnages qu'on connaît bien maintenant, hein, que ce soit Simone Veil, Gisèle Halimi, pour donner à voir des collectifs qui sont des fois un petit peu moins mis en avant. Et qui ont contribué, alors en dehors de l'arène parlementaire, effectivement, par des mobilisations, enfin, le mouvement pour la libération de l'avortement et la contraception, qui a une action sur le terrain au quotidien, toutes les avancées législatives sont quand même le fruit de batailles qui se sont aussi jouées dans le quotidien des femmes, quoi. Enfin...
En fait, historiquement, ce qui s'est passé et qui est important de comprendre, c'est que en gros, l'avortement a plus ou moins toujours été stigmatisé, mais pas toujours selon les mêmes rhétoriques, et qu'il y a des enjeux de pouvoir qui sont très forts historiquement. Et en particulier en France, ce qui s'est passé, c'est qu'on a une transition démographique qui est très précoce. Donc en fait, on se met à avoir un déficit de naissance assez rapidement, dans un contexte à la fin du 19e, qui est celui de la défaite contre l'Allemagne, et où tout simplement, on a un gouvernement français qui se met à baliser parce qu'on n'a plus assez de petits Français pour aller faire la guerre. Je caricature un peu, mais c'est
ça. Hein, c'est exactement ça.
C'est une très grosse angoisse démographique. Et en fait, ça c'est la thèse de Fabrice Carin, ce qui montre, c'est qu'on s'est mis à rabattre sur les causes de ce déclin démographique. Enfin, on a fait de l'IVG la cause principale de ce déclin démographique, alors que c'était pas le cas. C'était en fait que les Français et Françaises ont eu très tôt des pratiques un peu rudimentaires, mais efficaces, relativement efficaces, de régulation des naissances, notamment aller se rincer dans un bidet après la sexualité. Et donc, on a eu moins de naissances. Mais c'est imputer ce déficit de naissance à l'avortement en faisait un prétexte pour mener une politique en fait très drastique, que ça soit, et qui a duré en fait toute la première moitié du XXe siècle et jusqu'aux années 60-70. Et d'ailleurs, dans les années 60, quand le mouvement français pour le planning familial défend la contraception, c'est une défense qui se fait en veillant à ménager l'argument nataliste, c'est-à-dire qu'on dit s'il faut de la contraception, c'est pour espacer les naissances, certainement pas pour les réduire, pour éviter l'avortement, mais parce que l'avortement provoque des infertilités définitives et il faut préserver la fertilité des femmes. Donc on est vraiment dans une volonté de faire que les femmes fassent des enfants, qui est la raison principale.
Peut-être pour nos auditeurs, revenir un peu sur l'histoire. Donc au moment avant la loi Veil, il y a eu quand même, par exemple, la loi Neuwirth sur la contraception. Et donc, il y a une histoire de cet accès à la contraception.
Oui, alors, l'accès à la contraception, en fait, il y a eu Neuwirth, et puis il y a eu une volonté véritable à ce moment-là de, entre guillemets, normaliser le recours à la contraception, qui aussi a été toujours pensée en opposition avec l'avortement, ce qu'a souligné Laurine. Hein, c'est vraiment, on a toujours mis l'avortement comme... Bah, avec la contraception, il y aura moins de recours à l'avortement et donc moins d'infertilité ou de risques, enfin de problèmes de santé chez les femmes suite à des avortements. Donc il y a toujours eu cette opposition et cette dichotomie, hein, qui reste encore aujourd'hui très très présente dans les esprits. C'est-à-dire, en fait, on tend encore à entendre l'idée qu'une femme qui avorterait serait une femme qui aurait mal pris sa contraception, alors même que la couverture contraceptive de la population française est très très importante quand on le met en perspective avec les autres pays au niveau international, et qu'elle est très médicalisée et très féminisée. Et en ça, en fait, il y a une fausse croyance qui serait que les femmes qui avorteraient seraient des femmes irresponsables, en fait. Parce que finalement, on s'aperçoit que c'est elles qui assument généralement seules dans le couple déjà la question de la contraception. Donc on pose peu la question encore de la contraception du côté des hommes et de leur responsabilité contraceptive. Et effectivement, elles sont vraiment comme très médicamentées, enfin médicalisées d'un point de vue contraception, que ce soit par la pilule, les DIU ou même effectivement les implants, enfin les différentes méthodes, même s'il y a des légères reconfigurations un petit peu contemporaines, on s'aperçoit qu'il y a une forte, forte couverture contraceptive des femmes.
En fait, tu parlais tout à l'heure du fait que dans un contexte de l'entre-deux-guerres, il y a eu des politiques natalistes et puis il y a eu comme ça cette espèce de panique morale sur « oh là là, les femmes avortent et c'est pour ça qu'on n'a plus de petits Français ». Mais tu disais en même temps que l'avortement a toujours été stigmatisé, toujours été contrôlé socialement. Vous démarrez le livre au moment des politiques réellement natalistes. Vous ne démarrez pas le livre avant. Donc c'est aussi qu'il y a eu un tournant à ce moment-là dans la criminalisation de l'avortement. Ça s'est traduit comment? Pourquoi vous avez décidé en fait de remonter au XXe siècle, quoi, en gros pas avant?
Alors là, l'enjeu, c'est qu'on voulait historiciser un peu le phénomène, mais que c'est un ouvrage de sociologie. Donc en fait, on était obligé de faire des choix. Enfin, moi, je pense que c'est assez important de jamais prétendre faire une histoire sur plusieurs siècles à partir du moment où c'est pas l'objet, etc. Donc l'idée, c'était de donner un peu de profondeur historique. On aurait pu tout à fait commencer à Simone Veil. Enfin voilà, la loi Veil, machin, 1975. Ce qu'on n'a pas voulu faire, justement, pour montrer qu'il y avait une histoire qui était beaucoup plus longue, qui s'inscrivait sur le temps long et montrer que... La sociologie et l'histoire, on a exactement les mêmes épistémologies, les mêmes façons de faire de la science. Du coup, ça nous semblait pertinent de faire ça remonter davantage, ça nous aurait permis de rien dire de vraiment intéressant. Donc, on a vraiment décidé de commencer par ces enjeux démographiques. Alors, peut-être aussi parce que, on a beaucoup lu les travaux des démographes et que, par habitude, peut-être aussi, on est entré par là. Hein. Il y aurait eu d'autres entrées possibles. Mais ça nous semblait important, en fait, de faire comprendre que c'est des enjeux de contrôle des populations. C'est des enjeux de comment un État gouverne sa population et, en particulier, gouverne le corps des femmes, qui était quand même notre entrée en partie, pas que. Donc c'est pour ça que ça nous semblait important. Et c'est pour ça aussi, comme l'a dit Marie, qu'on voulait visibiliser les collectifs, parce qu'il y a quelque chose qui est assez important à dire et qui est très joli dans cette histoire. En fait, c'est une histoire qui a été beaucoup invisibilisée, qu'on commence aujourd'hui à connaître, notamment avec des films comme Annie Colère, qui permettent de se rendre compte qu'il y a eu des luttes, en fait, qui ont été des luttes très médiatisées, qui ont fait beaucoup de bruit, qui ont supposé des méthodes d'organisation, d'auto-organisation extrêmement intéressantes, avec de la collaboration entre des médecins, des non-médecins, des militantes féministes, des gens qui venaient plutôt de la gauche radicale, etc.
Et dans toute la France, dans toutes les régions.
Dans toute la France.
C'était pas juste quelque chose qui était avec les étudiants ou que dans les villes.
C'est ça. Donc ça, c'est la thèse de Lucille Rouault dont est inspirée le film d'Annie Colère. Mais en fait, l'OMLAC, donc le mouvement de libération de l'avortement et de la contraception, c'est vraiment un mouvement politique historiquement qui a assez peu d'équivalent et qui s'est mis à revendiquer manu militari le droit à l'avortement en se mettant à faire publiquement aussi des avortements avec une rhétorique qui était « on fait des avortements aussi pour dire qu'on en fait ». À un moment donné, ce droit-là, vous allez être obligé de nous la donner. Et alors, il y a une phrase qui est attribuée au prédécesseur de Simone Veil qui lui aurait dit « Dépêchez-vous de faire une loi sur l'avortement, sinon vous aurez un avortement sur votre bureau ». On ne sait pas dans quelle mesure historiquement elle est vraiment vraie, mais ça dit quelque chose du climat politique dans lequel on était à l'époque, c'est-à-dire que le dossier IVG au début des années 70, il devient très 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 urgent, parce que ce qui s'est passé, c'est qu'en 67, il y a eu l'accès à la contraception, mais les décrets n'ont pas été publiés, donc de fait, les femmes, elles n'ont pas accès à la contraception, pas tellement. Les médecins sont hyper réticents à la prescrire, etc.
Ça coûtait cher.
Ouais, c'était pas remboursé, c'est remboursé en 74. Enfin, il y a beaucoup d'enjeux comme ça. Donc en fait, leur problème qui était faire moins d'enfants n'était pas résolu. Et donc le mouvement s'est radicalisé de façon très véhémente au tournant des années 70.
Et donc après, il y a eu cette lutte du MLAC, cette lutte collective, il y a eu aussi les pétitions, on se souvient tous du manifeste des 343 personnes ayant dit qu'elles ont avorté, et il y a eu la loi Veil. Alors peut-être avant la pause musicale, nous dire ce que dit exactement cette loi Veil d'il y a 25 ans. Rappeler à nos auditeurs, à nos auditrices, à ce moment-là, hein, parce que depuis, elle a évolué.
Alors, la veille était très, très restrictive à l'époque. En fait, il y avait déjà, c'était jusqu'à 10 semaines de grossesse. Après, il y avait comme deux rendez-vous avec une signature, un délai de réflexion entre les deux rendez-vous. Toute une procédure qui rendait, en fait, véritablement très, très contraignant. Puis, il y avait un entretien psychosocial qui avait quand même une visée, c'est les travaux d'Anne-Marie Devreux qui le montrent, hein, très dissuasive. Où l'enjeu c'était quand même de s'assurer que finalement on tolérait l'avortement, mais fallait surtout pas l'encourager. Enfin, c'est un peu ce que disait même le discours de Simone Veil à l'époque. Hein. C'est l'idée aussi de pas rembourser à cette époque l'avortement. Il y avait aussi cette idée là de ça ne peut pas être quelque chose qu'on fait prendre en charge à la société.
Comme pour faire le lien avec justement les politiques natalistes et les politiques, enfin la question démographique qui était réellement posée comme ça à l'époque dans les discours politiques, ce qu'on peut se demander aussi, c'est comment la loi Veil a participé à faire de l'avortement une question, on va dire, intime pour les femmes et pas justement une question, je sais pas moi, politique, familiale en fait. C'est ça qui est frappant quand on voit en fait comment est traité l'avortement, qui a l'air d'être une question intime, quoi, une question, en fait, ça regarde les femmes et puis c'est elles qui doivent décider en leur âme et conscience, en espérant que leur âme et conscience soient torturées, quoi, en gros, c'est un peu ça qui se pose dans les années 70, alors même que les politiques natalistes, c'est des politiques familiales, en fait, qui encadrent, je sais pas moi, les enfants, l'abandon, par exemple, des enfants. Enfin, je me dis ça parce que c'est, parallèlement, si on voit les politiques qui encadrent l'abandon, ne concernent pas spécialement les femmes, par exemple. Elles concernent une politique familiale. Alors que l'avortement, justement, avec la loi Veil, avec ce côté très médicalisé, ce délai de réflexion, l'entretien avec la femme et aussi tout ce qui touche, justement, alors l'anonymat, je ne sais pas, mais ce côté, bah, on ne va pas en parler, vous n'êtes pas obligé d'en parler au mari, etc., finalement, va poser la question de l'avortement comme étant une question qui va concerner psychologiquement les femmes, quoi.
En fait, ça, c'est le résultat d'un certain état des rapports de force dans les années 70. La rhétorique, par exemple, du manifeste des 343, c'est une rhétorique qui est écrite par le MLAC, donc par le MLF, pardon, donc le Mouvement de Libération des Femmes, c'est une rhétorique extrêmement féministe. Il y a un texte de Monique Wittig qui dit « le droit des femmes à disposer de leur corps ». Ça, c'est la rhétorique des féministes, entre guillemets, radicale, perçue comme telle dans l'espace public. Simone Veil, quand elle arrive devant une assemblée où elle a que des bonhommes et trois femmes qui se baladent au milieu, elle peut pas tenir ce discours sur le droit à disposer de son corps. Donc en fait, son discours et sa rhétorique, il y a deux choses. La première, c'est l'autorité de l'État est bafouée et se fait insulter parce qu'on a des gens qui viennent avorter sous leur nez. Il faut rétablir l'ordre. Donc en fait, il faut faire une loi pour rétablir l'ordre. Et la deuxième, c'est un argument sanitaire, qui est des femmes meurent, parce que de toute façon, elles avortent. C'est comme ça, on ne peut pas l'empêcher. Il faut faire en sorte qu'elles n'en meurent pas. Donc en fait, à aucun moment, dans le discours de Simone Veil, et même dans l'esprit de la loi, qui est une loi de compromis, on pense l'autonomie des femmes et leur capacité à décider. Ce qui a réussi à être arraché, c'est quand même le droit de décider, parce qu'en fait, ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas... Enfin, ça ne pouvait pas être un choix du partenaire sexuel, ça ne pouvait pas être un choix des médecins, etc. Il y a eu cette partition IVG, IMG, pour laisser les décisions au-delà du seuil de 10 semaines à des commissions de médecins. Mais en fait, voilà, ça, c'était le choix presque le plus féministe, mais il était partiel. Par ailleurs, ce qu'on a fait, c'est une mise sous contrôle totale par l'autorité médicale. Les médecins ont eu le monopole médical, alors même qu'il y avait des non-médecins qui faisaient des IVG au sein du MLAC, avec des techs. Enfin, on aurait pu tout à fait envisager, ça c'est aussi Lucille Rioux qui l'avance, qu'en fait, on aurait pu continuer à faire des avortements dans peut-être des maisons de santé, ou des... enfin, il y aurait eu d'autres façons de le faire. Mais la sanitarisation, c'était une façon pour l'État de remettre du contrôle, c'était une façon pour l'État de mettre beaucoup de petits dispositifs, notamment l'entretien psychosocial, qui au début avait pour but quand même de dissuader les femmes en leur disant... vous pouvez aussi aller au bout de la grossesse. Donc la question de est-ce que l'IVG est un choix intime ou pas, en fait, était assez secondaire par rapport à l'enjeu de réaffirmer l'autorité de l'État via une politique de santé. Enfin, en tout cas, moi, c'est la lecture que j'en ai, quoi.
Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel avec les oreilles loin du front. Et ce soir, on parle de l'ouvrage Sociologie de l'avortement qui est publié aux éditions La Découverte dans la collection Repères avec les chercheuses Marie Mathieu et Laurine Tizi.
Allô le Black, bonne nouvelle, il paraît qu'enfin c'est voté. Cette fois on la tient, la loi Veille, les femmes vont pouvoir avorter. Tout va très bien. Ça vous coûtera 60 000 balles, et c'est pas cher.
Et oui, alors là, on était dans la rue avec des militantes du MLAC. On devait être autour de l'année 75. 75, c'est l'année de la loi Veil, la loi sur donc la libéralisation, la légalisation ou la libéralisation d'ailleurs.
Dépénalisation
partielle. C'est important parce que d'ailleurs, on sent dans les militantes du MLAC de nombreuses revendications sur le fait que la loi n'a pas été assez loin. Donc ce soir, effectivement, on parle avec les chercheuses Marie Mathieu et Laurine Tizi de sociologie de l'avortement. C'est leur ouvrage qui est publié aux éditions La Découverte. Alors avant la pause musicale, on parlait un peu de l'histoire et de la genèse de la loi Veil. Donc la loi Veil est passée, mais les militantes ne sont pas arrêtées de militer. Et la situation, il y a eu quand même des ajustements après de la loi Veil.
Alors déjà, avec le vote de la loi Veil, effectivement, tous les MLAC n'ont pas arrêté. Il y a des MLAC dits dissidents, qui a étudié notamment Lucille Ruau, qui ont continué, étant contre la médicalisation de l'acte, et notamment le fait qu'on le confie exclusivement aux médecins. Ce n'était pas différents professionnels de soins, en l'occurrence, c'était les médecins. La loi aussi a évolué au cours du temps, évolution qui maintenant apparaît un peu évidente. Mais il y a eu beaucoup de choses, tant autour de la condamnation du délit d'entrave, parce qu'il faut voir qu'il y a eu quand même des commandos anti-avortement qui ont été quand même très actifs pour qu'on en arrive à voter la loi NERTS au début des années 90. Mais aussi, il y a eu la question du remboursement, la pérennisation aussi de la loi dans les textes, puisque initialement elle a été votée pour 5 ans et elle est renouvelée en 79 avec la loi Pelletier. Et puis bon, il y a la question des remboursements qui va être améliorée, la question du délai qui va être progressivement allongé, la situation de détresse qui va être enlevée, l'entretien psychosocial qui va devenir facultatif, le délai de réflexion. Enfin voilà, énormément d'évolutions qui généralement sont plus quand la gauche est par là. Et d'ailleurs, il y a eu des tentatives, par exemple, de retour en arrière à plusieurs occasions. Je pense notamment à la question de la tentative de déremboursement de l'avortement dès que la droite est revenue au pouvoir. Enfin voilà, il y a eu quand même à chaque fois un rapport de force qui s'est joué autour de cette question-là.
Non, parce que justement, on a vu que la loi Veil, et c'est ce que tu viens de dire, en fait, la loi Veil donne un certain pouvoir aux médecins, inscrit en fait l'avortement dans une certaine... dans un certain rapport de force. Et dans ce rapport de force, comment a joué justement le planning familial qui perdure encore aujourd'hui? Parce que le MLAC, on voit bien l'importance dans les années 70, mais aujourd'hui, on ne peut pas dire que le mouvement soit très actif, alors que le planning, on en parle encore aujourd'hui. Dans ce rapport de force-là, comment ont joué justement les militants, militantes du planning? Qu'est-ce qu'ils ont essayé d'arracher? Voilà.
Alors, le planning familial, en fait, il y a eu quand même une radicalisation au début des années 70 du planning familial qui s'est un peu aligné sur les MLAC, c'est-à-dire la pratique et l'organisation de voyages à l'étranger. Le planning a de longues dates et fait le travail de terrain au quotidien et effectivement, c'est toujours battu pour essayer de faire en sorte qu'il y ait des avancées. Alors, il y a certaines avancées qui sont liées à certaines de leurs actions et aussi à des initiatives parlementaires. Mais il faut voir qu'aussi, il y a eu des améliorations un petit peu fortes avec le Covid aussi. Il y a eu aussi, d'un coup d'un seul, on a voté des lois qui étaient temporaires, finalement, qu'on a pérennisées, voyant que ça fonctionnait bien, notamment la question de la téléconsultation ou un accès un petit peu plus facilité à l'avortement. Donc il y a quand même des à-coups comme ça qui ont lieu. Et effectivement, le planning familial est un des acteurs historiquement. Il y a toujours cette idée encore aujourd'hui, par exemple sur les avortements en délai dépassé. Le réflexe encore aujourd'hui de beaucoup de professionnels de soins, c'est d'envoyer les femmes au planning familial. Et car le planning familial est une ressource qui a développé une expertise sur cette question-là, puisqu'effectivement, les médecins sont encore très, très fébriles sur cette question et à diffuser ne serait-ce que de l'information sur quelles solutions ont les femmes dans ces situations où elles ont dépassé le délai légal.
Et puisqu'on parle des médecins, au moment de la loi Veil, il y avait un droit des professionnels à refuser de pratiquer l'IVG. Alors, à l'époque, est-ce que vous savez s'il y avait beaucoup de médecins qui refusaient et comment ça a évolué?
Ça existe toujours. Il y a toujours une clause de... Enfin, on l'appelle clause de conscience, c'est pas écrit comme ça dans le texte, mais c'est une précision qui dit que les professionnels de santé qui le veulent ont la possibilité de refuser cet acte, mais sont dans l'obligation théorique et exclusivement théorique de réorienter leurs patients et leurs patientes. Dans les faits, ce qui se passe aujourd'hui en France, ça c'est le travail de Raphaël Perrin en cours, qui est une thèse qui va être soutenue bientôt, c'est que c'est assez mal vu pour les médecins aujourd'hui de ne pas faire d'IVG, parce que quand c'est considéré comme le seul boulot de la gynécologie, un boulot qui doit être fait, et donc qu'on confie aux personnes dominées de la chaîne alimentaire médicale, c'est-à-dire principalement aux internes. Ce qui fait qu'il y a une sorte de partition entre dans des services de gynécologie obstétricale où on confie la réalisation des aspirations aux internes, et dans des services plutôt spécialisés, donc des centres d'IVG, des professionnels beaucoup plus spécialisés qui ont choisi d'être là, qui en général ont des pratiques beaucoup mieux traitantes, qui sont mieux formés, mais qui sont en général pas des gynécologues obstétriciens, mais soit des gynécologues médicales, qui est une spécialité qui s'est construite autour de l'orthogénie, de la réalisation des avortements, et des médecins généralistes, qui sont quasiment que des femmes, mais qui sont prises dans des rapports de pouvoir très forts avec le reste de l'hôpital. Donc, dans les faits, très concrètement, aujourd'hui, un médecin qui ne veut pas pratiquer des IVG et qui oppose frontalement sa clause de conscience est stigmatisé par l'ensemble de ses collègues comme refusant de partager le sale boulot. Cependant, ça ne veut pas dire que la grande majorité des médecins est enthousiaste à faire des IVG. C'est pas le cas. Et ce à quoi on assiste en réalité avec cette norme de la clause de conscience, c'est sacré, les médecins veulent surtout pas qu'on y touche parce qu'ils ont l'impression que ça porte atteinte à leur corporation, mais en même temps, dans les faits, c'est un peu paradoxal, on veut pas que ça soit appliqué, enfin on veut pas que les collègues l'utilisent. Elle a pour effet que les gens qui veulent pas faire d'avortement, en général, trouvent des techniques un peu sournoises pour ne pas être obligés d'en faire. Donc, soit des techniques d'esquive, de ne pas être là, soit des techniques en fait, qui passent par de la maltraitance des patientes. Enfin, si la clause de conscience était facilement applicable et avec une vraie obligation d'orientation, il y a une espèce d'ambiguïté à cet endroit-là. Mais du coup, de fait, des médecins qui sont opposés à l'IVG, qu'est-ce qu'ils font? Ils peuvent faire des choses très simples, du style « je fais pas ça » et ils refusent de prendre en charge une patiente. Des trucs comme « votre échographie est pas lisible ». Alors que l'échographie est lisible. Des trucs comme « Ah, vous êtes au-delà de 10 semaines, alors que vous avez le droit d'avorter jusqu'à 14 semaines, mais nous, on ne fait pas ça ici, débrouillez-vous, allez voir ailleurs. » Enfin, en fait, il y a plein de façons de ne pas faire des IVG, mais qui, en général, ce sont les femmes directement, les personnes qui avortent en général, qui en pâtissent, et qui sont, en fait, très vulnérables dans ces situations-là, parce que souvent mal informées, et qu'elles ne savent pas que en fait c'est un droit qu'elle pourrait exercer, qu'elle pourrait réclamer et que
Oui, puis il y a le temps en fait, il faut faire l'avortement avant telle date, donc il y a quand même une urgence.
Oui, et puis les femmes sont bêtement mal informées, c'est-à-dire qu'en fait comme c'est stigmatisé, ça fait que on n'en parle pas ouvertement, donc en fait, il y a un réflexe planning familial qui est très fort. Moi, je l'ai beaucoup vu dans mes entretiens, quand elles savent pas où aller, elles ont ce réflexe planning. Mais une fois ça dit, en fait, elles ne savent pas forcément comment ça se passe, elles ne savent pas forcément quels sont les délais. Il faut voir aussi que la prise en charge, elle est très différente, en fait, sur tout le territoire français, selon ce qu'on avorte. Dans un service de gynécologie, dans un centre d'orthogénie, avec une sage-femme en libéral ou un médecin spécialisé en libéral, en fait, les conditions de prise en charge varient du tout au tout. Donc, c'est assez difficile de donner... un tableau harmonieux de ces prises en charge, parce que selon qu'on est avec des médecins militants, féministes, qui ont choisi d'avorter pour des convictions personnelles, ou qu'on a des internes que ça n'intéresse pas du tout, parce que c'est un peu le truc... c'est facile, en fait, une IVG, il n'y a pas d'enjeu technique. Vous n'êtes pas pris en charge du tout de la même manière. Donc, c'est des très forts enjeux d'organisation des soins, de formation des médecins, de changement des représentations... plus largement, quoi.
Peut-être pour rebondir, parmi les évolutions de la loi, il y a eu l'ouverture de la pratique de l'avortement aux sages-femmes, alors d'abord par médicament, puis par aspiration.
Ça date de quand, ça ?
C'est assez récent. Je pense que pour les médicaments, c'était...
2016.
Ouais, là, j'ai plus les dates en...
Et 2022, l'instrumental.
Mais en fait, ce qui est étonnant, c'est que les médecins, en fait, le droit de réserve des médecins était là parce qu'en fait, les médecins à qui on délégué l'avortement, enfin à qui l'État a décidé de déléguer l'avortement par la loi, c'était une façon de leur assurer que, en fait, on leur délègue, mais ils peuvent dire non. Enfin, c'était un compromis qui va marquer durablement la loi puisque cette clause de conscience demeure. Mais ce qui est marrant, c'est qu'au moment où les sages-femmes ont revendiqué l'accès à la pratique, soudainement. les médecins, bizarrement, ont une posture beaucoup plus... Donc, il y a une réelle contradiction, en fait, de qui fait quoi, pourquoi, comment, et de cette idée de maintenir un certain contrôle. Et puis, parmi les évolutions, quand même, il faut voir, hein, la pratique de l'avortement, c'est pas mal en médecine de ville aujourd'hui. Enfin, il y a eu quand même une diversification des lieux de la prise en charge, une diversification des professionnels impliqués dans les trajectoires. Après, effectivement, c'est une forte, forte disparité sur l'ensemble du territoire, tant sur les méthodes qui sont proposées que sur la façon dont les prises en charge sont assurées et les motifs qui animent les professionnels qui sont dans ces services-là. Voilà.
Peut-être un truc qu'on n'a pas dit, mais qui est hyper important. Des fois, on oublie les choses très évidentes quand on connaît très bien un objet. C'est qu'aujourd'hui, les trois quarts des prises en charge sont faites par méthode médicamenteuse. Donc, vous prenez... deux comprimés qui provoquent, ça fait comme une provocation de fausse couche, alors qu'historiquement, c'est ce qu'on appelle une méthode par aspiration, donc qui consiste à introduire une canule dans l'utérus et à aspirer le contenu de l'utérus, soit sous anesthésie générale, soit sous anesthésie locale, soit même parfois sans anesthésie à l'époque, avant la loi Veil. Et en fait, cette introduction de la pilule abortive, elle a eu pour effet de pouvoir diversifier les prises en charge, parce que ça n'impliquait pas un acte chirurgical. Et un des trucs qui se joue, qui est d'ailleurs assez rigolo à observer quand on est sociologue, avec l'ouverture de l'acte chirurgical aux sages-femmes, en fait, ça crée un précédent qui est que les sages-femmes se mettent à avoir accès au bloc opératoire, et donc ont besoin d'anesthésistes, surtout si c'est une anesthésie générale, et donc des anesthésistes se retrouvent sous les ordres d'une sage-femme. Et ça, en fait, ça vient bouleverser la hiérarchie des professions. Et c'est à ça que les médecins conservateurs qui refusent de déléguer du pouvoir, ils sont pas tous comme ça, mais il y en a quand même un certain nombre comme ça, c'est à ça qu'ils s'opposent. Et en fait, quand ils disent « les sages-femmes n'ont pas les compétences », c'est pas vrai. C'est « on ne veut pas que structurellement, il y a une remise en cause du monopole que nous, on a, notamment sur le bloc opératoire ». Enfin, c'est des forts enjeux qui se jouent en termes de hiérarchie des professions.
Et peut-être pour rebondir sur la question de l'anesthésie, en France, c'est une évidence qu'un avortement par aspiration se fait soit sous anesthésie locale ou générale. Et en fait, c'est ça qui était intéressant dans mon travail de thèse, c'est qu'en allant au Québec, je découvre au Centre de santé des femmes de Montréal que les avortements par aspiration peuvent se faire différemment en termes de prise en charge de la douleur. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est dès qu'on fait des pas de côté, par exemple, d'aller voir que, par exemple, dans les centres de planification en Belgique, l'hypnose est pratiquée pour les avortements par aspiration. En fait, il ne suffit pas d'aller très très loin pour voir combien, en fait, il y a des choses qui nous apparaissent évidentes. Sur la question de la prise en charge de la douleur, tout spécifiquement dans les avortements par aspiration, parce que même sur la question des avortements par médicaments, la question de la douleur, il a fallu tardivement qu'on... Enfin, la question s'est posée assez tardivement de la prise en charge de la douleur des avortements médicamenteux qui, pourtant, effectivement, sur une échelle de douleur, sont mentionnés comme plus importants. Donc voilà, ça fait partie des éléments que la comparaison permet de révéler, en fait.
Pour nos auditeurs, il y a effectivement le film Annie Colère, mais il y a aussi Histoire d'A, où on voit un avortement qui se fait par aspiration. Et en fait, on voit la personne qui est avortée, qui discute avec les militants du MLAC. Tout ça, ils sont en train de manger, de boire, tout se passe en même temps. Et il n'y a pas du tout d'anesthésie. Et il y a une façon... Alors après, évidemment, c'est un film militant d'une époque, mais ça raconte aussi d'autres images de l'avortement, en fait.
Oui, avec cette idée de... Alors, c'est tout ce qui était un petit peu de l'ordre d'une forme d'anesthésie verbale. Enfin, c'est toutes les techniques, en fait, qui étaient développées. Lucille Roux revient beaucoup dessus dans ses analyses autour de la question de la prise en charge de la douleur.
Alors, presque de l'auto-hypnose, en fait, hein, dans la façon de, voilà, tu respires, tu sens ton... Voilà, ouais. Le médecin va toucher tel endroit, ça va décoller le fœtus, il va partir, tu sens le truc.
Mais alors, ce qui est intéressant, c'est justement dans Annie Colère, cette idée de par exemple, d'avoir la possibilité de savoir quel acte est porté sur le corps, d'éventuellement avoir recours au miroir pour pouvoir savoir. Moi, j'avais été bouleversée au Centre de santé des femmes de Montréal, tant la prise en charge... En fait, je me suis retrouvée aller au Centre de santé des femmes de Montréal parce qu'en fait, autant je m'attendais dans les entretiens à avoir des entretiens où les femmes me disent que leur épisode était un épisode assez ordinaire et banal, mais je ne m'attendais pas à ce que des femmes me disent « c'était un super moment de ma vie ». Enfin, et ça, en fait, c'est pour ça que je débarque au Centre de santé des femmes de Montréal et où je découvre comment, en fait, une prise en charge qui est pensée par et pour les femmes, en fait, mais des choses très bêtes, c'est-à-dire les femmes, elles n'étaient pas dans des salles d'opération, elles étaient dans des salles où on pratiquait les avortements, ou ne serait-ce que le fait qu'elles puissent correctement poser leurs jambes plutôt qu'être sur des étriers avec les jambes qui tremblent, d'avoir du confort, de pouvoir être accompagnées. On leur proposait de venir en jogging et pas avoir une jaquette d'hôpital, mais de pouvoir, par exemple, venir avec un bas de jogging, s'enrouler dans un pareo, enlever leur bas de jogging et s'installer sur la table, ce qui faisait que seule la médecin qui a pratiqué l'avortement voyait les parties intimes de la patiente. Et ce qui permettait aussi que la femme puisse être accompagnée de la personne de son choix. Des petits détails, un tableau au plafond, de la possibilité d'avoir juste des choses pour se réchauffer ou se rafraîchir pendant toutes les étapes. Le fait de pouvoir voir et même de pouvoir voir le produit de la grossesse extrait, qui permet une forme de dédramatisation et qui permet aussi de lutter contre ces images sensationnelles qui ont été diffusées par les anti-choix et qui marquent encore aujourd'hui beaucoup les esprits, quoi. Enfin...
Ben peut-être sur la façon dont les images elles jouent, il y a aussi un enjeu, c'est que la majorité des représentations qu'on a de la grossesse sont des représentations qui sont destinées à des femmes enceintes qui veulent poursuivre leur grossesse jusqu'au bout. Ce qui fait que si vous cherchez ce que c'est un fœtus à X semaines, vous allez en réalité avoir toute la chaîne du développement, de la fécondation au bébé, et c'est souvent des dessins, et c'est souvent des dessins qui humanisent beaucoup plus que ça ne l'est. En fait, il ne faut jamais oublier que toute représentation, que ça soit une échographie, que ça soit un dessin, c'est un parti pris, c'est un regard sur un objet. Et très souvent, les dessins sont à destination de personnes qui attendent, entre guillemets, un heureux événement. Et donc, c'est mis en scène, ce récit-là, de la joie de la maternité, y compris dans les choix iconographiques qui sont faits. Et d'une façon encore plus générale, ce qu'on peut dire, c'est que le développement de la technique échographique, le fait de faire de l'échographie... Il y a beaucoup de travaux, notamment états-uniens là-dessus, la première photo de bébé, entre guillemets, et de mettre en scène dès le début la visualisation de l'embryon, elle conduit en fait à oublier que cet embryon se trouve dans un utérus, se trouve dans un corps, et peut pas se développer sans lui. Et là, ça c'est plutôt beaucoup de travaux américains autour de ça, sur comment l'échographie, l'écoute du cœur, enfin toutes les technologies en fait de la médecine fœtale ont contribué à donner du grain à moudre au moulin des anti-choix, en fait en favorisant une humanisation de l'embryon de façon extrêmement efficace, par des comparaisons en fait du récit qui est destiné à des personnes qui veulent poursuivre leur grossesse et avec une comparaison avec l'avortement.
Alors, dans votre livre, vous parlez du travail procréatif. Et ça veut dire quoi exactement ?
Alors, le travail procréatif, c'est une notion qu'on a proposée avec Lucille Ruault en 2000... Je ne suis pas très bonne sur les dates. En 2014 ou en 2017, je ne sais plus. 2017, je pense. Qui, en fait, était une notion qui est le fruit d'une réflexion autour de la notion du travail qui était dit historiquement reproductif. Et en fait, on voulait montrer que en fait, le travail procréatif, alors c'est-à-dire tout ce qui est lié au contrôle des naissances à produire ou ne pas produire des enfants, ça va même sur la contraception, la procréation médicalement assistée, enfin toutes ces séquences-là, en fait, impliquent du travail pour les femmes. Et on voulait les appréhender ensemble, ces différents temps de la vie des femmes, pour montrer en fait les mécanismes analogues. Et notamment, c'était dans le cadre d'un dossier de recherche sociologique et anthropologique où on avait demandé à chacune de se mettre en binôme avec des personnes qui travaillaient des fois sur des objets complètement perçus comme opposés. Enfin, je pense là, il y avait Charlotte Debé qui travaillait sur les femmes volontairement sans enfants et Lucille Herzog qui travaillait sur les femmes qui étaient en procréation médicalement assistée. Et on voyait qu'il y avait tellement d'analogies dans ce qu'elles vivaient, ce qu'elles ressemblaient, alors qu'on aurait pu penser qu'elles étaient aux deux extrémités de l'échiquier. Et en fait, elle se confrontait malgré tout à des mécanismes très, très analogues. Et en fait, la notion de travail procréatif, nous, elle nous a permis dans le petit bouquin d'aborder aussi bien le travail contraceptif que le travail abortif, avec cette idée que, en fait, il y a des personnes... Généralement, travail, ça évoque souvent travail salarié, donc ça évoque souvent professionnel. Nous, on voulait montrer qu'il y a aussi une division du travail qui a évolué, une division du travail qui a évolué aussi entre experts et profanes, c'est-à-dire que l'évolution de la médicamentation des avortements, c'est aussi, on délègue de plus en plus la question du travail abortif aux femmes, qui est moindrement aujourd'hui un acte d'un médecin. Donc c'était, en utilisant la notion de travail, c'était donner à voir en fait les conditions de ce travail, qui effectivement le réalisait, et les évolutions au cours du temps, et les mécanismes analogues de régulation des différents temps, on va dire, de ce travail procréatif.
En fait, il y a un enjeu autour... Utiliser le terme de travail, c'est une façon de dire c'est du temps, c'est de l'énergie, et c'est très souvent invisible. Donc, on avait à cœur de visibiliser ce temps et cette énergie qui y sont consacrés. Et je pense que cette notion, enfin, son mérite, elle a beaucoup de vertus scientifiques, et Marie a développé ça, mais elle a aussi des vertus d'une façon beaucoup plus générale, à mon avis, dans l'espace public. C'est de dire, bah, comme on parle de travail émotionnel, comme on parle, voilà, de dire, il y a des personnes qui consacrent des bouts de leur existence, parfois importants, à faire des trucs, avorter, élever des enfants, réguler une tension au sein du couple, s'assurer que tout le monde ait des cadeaux à Noël, etc., etc., qui prennent du temps, de l'énergie, qui n'est pas consacrée à autre chose, qui n'est pas consacrée au loisir, qui n'est pas consacrée à développer sa carrière professionnelle, enfin, en fait, qui est contradictoire avec d'autres types de travail ou de loisir, et du coup, de réimposer ça dans le débat public. Et y a vraiment ça, plus fondamentalement, plus généralement, autour de la notion de travail, quoi.
Et que ce soit pour la contraception que l'avortement, en fait. C'est vraiment, il y a une division sexuée du travail procréatif des deux côtés.
Et ce qui est intéressant aussi à souligner, c'est que parler en termes de travail, ça nous amène à aller questionner les conditions de ce travail-là. Finalement, on s'est aperçu que les femmes qui... aujourd'hui, il y a moins de grossesses non prévues, mais les grossesses non prévues sont plus souvent avortées. Mais les grossesses non prévues, elles surviennent généralement. Alors, pendant très longtemps, on a eu des stéréotypes qui ont circulé sur qui étaient les femmes qui seraient plus à risque d'avorter ou... On sait que quand même, les femmes des milieux économiquement plus défavorisés avortent plus. Du fait de cette norme sociale, des conditions socialement définies comme bonnes pour avoir des enfants, où il y a un facteur matériel qui joue. Cependant, en fait, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas une population cible, mais qu'il y avait des moments très spécifiques où on avait des moments de fragilité contraceptive. Par exemple, vous avez un deuil dans votre famille, la contraception et le travail contraceptif est une question qui va passer totalement en arrière-plan. Vous êtes en dépression, vous venez de vous faire quitter. Possiblement, vous vous dites à ce moment-là que la contraception n'a plus de sens puisque vous n'avez plus de partenaire sexuel et que vous ne vous projetez pas dans une sexualité imminente. On voit qu'il y a des moments, des séquences où il y a des ruptures dans les routines des personnes qui les expose beaucoup plus à un risque de grossesse non prévue, donc quelque part d'avortement.
D'avoir trop bu un soir, d'avoir voyagé, si on ne fait pas attention.
D'être en horaire décalé, d'avoir une gastro-entérite, où on ne sait pas si oui ou non on reprend un deuxième cacheton de pilule ou pas. C'est tous ces éléments-là. Et puis il faut bien voir que les femmes, en fait, faudrait faire le décompte du nombre de médicaments, par exemple, qu'une personne prend, le nombre de pilules qu'une femme prend. De sa puberté jusqu'à sa ménopause. Ça peut paraître des petits gestes anodins, mais en fait, c'est aussi une charge mentale, une charge contraceptive. Enfin, juste, je prends l'exemple, j'ai le souvenir d'une jeune fille au théâtre qui avait son téléphone qui a sonné pour lui rappeler qu'il fallait qu'elle prenne sa pilule. Bon, il y a des outils maintenant qui sont utilisés pour ces notes de rappel, mais on voit bien qu'il y a quand même le fait d'y penser, puis d'anticiper la fin des plaquettes, le fait de prendre rendez-vous. On sait qu'il y a des difficultés d'accès aussi aux consultations en santé. Tous ces éléments-là, en fait, toutes ces petites choses-là, quand on les met bout à bout, en fait, c'est quand même des séquences temporelles qui sont non négligeables sur une existence complète.
Et d'une façon plus générale, c'est vrai qu'on parle beaucoup de la pilule, mais en fait, toute méthode de contraception... Elle suppose de faire des efforts et de faire des démarches. En fait, ne pas faire en sorte qu'une relation sexuelle, hétérosexuelle, pénétrative ne produise pas une grossesse, ça demande du travail à tous les niveaux. Et une des choses qui s'est passée avec la généralisation de la pilule qui est la méthode dominante en France, contrairement là aussi à plein d'autres pays, c'est qu'il y a eu complètement un report de cette charge contraceptive, du travail contraceptif, sur les femmes. Les personnes avec un utérus d'une façon plus générale. Et ce qui s'est passé avec ça, c'est que les hommes, les partenaires avec un pénis, d'une façon générale, se sont complètement désengagés de ce qui relevait avant, en partie, de leur responsabilité, puisque la principale méthode, c'était le retrait. Le bidet et le retrait, en gros. C'était ça, les méthodes. Et du coup, la conséquence que ça a eue, c'est de faire comme si, aujourd'hui, une grossesse, c'est quelque chose que j'ai beaucoup dit en interview, mais parce que je pense que c'est une image qui fonctionne, c'est... La grossesse n'est pas une réaction spontanée du corps féminin. La grossesse est la conséquence d'une relation hétérosexuelle, pénétrative, avec éjaculation, c'est-à-dire avec présence de sperme dans l'utérus, qui implique systématiquement un deuxième partenaire dont la fertilité est permanente. Et cette fertilité-là, non seulement elle n'est jamais questionnée, mais elle est complètement oubliée dans l'affaire. Et en fait, là, il y a quelque chose à penser, à la fois en termes de pratiques sexuelles et de qu'est-ce qu'on fait pour la fertilité des hommes, qui en fait sont responsables aussi de leurs gamètes à un moment donné. Quand on envoie ces gamètes se promener dans la nature, eh bien, parfois elles font des enfants, ou des grossesses dont on ne veut pas. Donc aussi, comment on éduque toutes les personnes dotées d'un pénis et qui ont l'intention de mettre ce pénis dans un endroit où il y a des ovaires fonctionnels, à faire en sorte de ne pas féconder une personne s'ils n'en ont pas envie.
Oui, là, il y a une vraie inégalité contraceptive.
Oui.
Alors, ce soir, aux Oreilles Loin du Front, sur Fréquence Paris Pluriel, on parle de la sociologie de l'avortement avec deux chercheuses, Marie Mathieu et Laurine Tizi. C'est un peu cut, mais vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel avec les oreilles loin du front. Effectivement, ce soir, on parle d'histoire d'avortement, de militance. Et on a en plateau Marie Mathieu et Laurine Tizi qui ont publié, alors je dis, vient de publier, c'était plutôt il y a quelques mois, Sociologie de l'avortement, c'est un repère de la découverte. Donc c'est un petit livre qui fait une petite synthèse de la sociologie de l'avortement plutôt récent et plutôt en France, hein, parce qu'on ne peut pas tout faire, et voilà, même si vous avez fait des thèses et des recherches dans différents pays, puisque Marie a travaillé sur le Québec, là on va rester en France. Alors avant la pause musicale, on parlait du travail procréatif plutôt du côté des femmes, mais il y a aussi quand même les médecins qui avortent, et les hommes médecins. Et là je pense que ça pourrait être intéressant d'aller du côté justement des professionnels de santé sur ce sujet.
Alors, les professionnels de santé, en fait, il y a plusieurs enjeux. comme on le disait un peu tout à l'heure, la prise en charge de l'avortement, elle n'est pas du tout harmonisée en France. Elle est souvent absente des études de médecine, ou alors c'est vraiment qu'un tout petit module, y compris en gynécologie. Donc en fait, on a en général des médecins qui sont mal formés, voire pas formés, aux questions contraceptives et abortives. Ce qui fait qu'on va avoir, que ce soit dans la contraception ou dans l'avortement, des différences de pratiques très grandes en fonction de est-ce que la personne s'est formée et s'est spécialisée sur ces questions-là ou pas. Notamment, une des raisons pour laquelle la pilule continue d'être prescrite de façon systématique, y compris à des personnes à qui elle ne convient pas, c'est qu'en fait, les médecins mal formés ont ce réflexe de « on prescrit la pilule, point ». Si vous allez en Angleterre, par exemple, on va présenter toutes les possibilités contraceptives de façon systématique parce que les autorités de santé disent qu'il faut faire ça, que les médecins sont en lien avec les autorités de santé et appliquent les réglementations sanitaires. En France, c'est un pays beaucoup plus corporatiste en termes de médecine. Les médecins en font un peu qu'à leur tête et s'ils ne sont pas formés, ben en fait, ils soignent avec le sens commun. Donc, ils prescrivent des pilules. Ça, c'est d'une façon générale. Sur l'avortement, ce qu'il faut voir, c'est que se spécialiser dans l'avortement, c'est faire un choix pour les médecins, mais aussi pour les infirmières, pour les aides-soignantes, etc., qui peut être assez clivant, parce qu'en fait, comme techniquement, c'est très facile de faire une IVG, ben, si vous choisissez cette voie-là, notamment si vous venez, si vous êtes gynéco, en fait, vous perdez des compétences parce que vous ne faites pas tout le reste. Donc en fait, c'est un vrai choix de carrière que quand on est médecin, que de choisir de se spécialiser en orthogénie. C'est d'ailleurs assez rare des médecins qui font que ça. Et ceux qui le font, en général, le font pour des raisons politiques très fortes. En général, c'est plutôt des médecins généralistes qui prennent des vacations d'une ou deux demi-journées, trois demi-journées maximum, dans un centre d'IVG, ou alors qui se sont formés en parallèle et qui ont quelques consultations IVG. Pareil pour les sages-femmes. Mais encore une fois, en fonction de où vous êtes pris en charge, par qui, est-ce que c'est des gens spécialisés ou pas spécialisés, est-ce qu'on vous propose les différentes méthodes ou est-ce qu'on vous impose la méthode? Parce qu'en fait, selon les compétences des professionnels de santé, le choix de la méthode qui normalement est censé être laissé à la personne qui avorte peut être en réalité complètement contraint et on vous impose une méthode et des délais, etc. Donc il y a un vrai enjeu sur l'organisation de l'offre de soins. Et en fait, il y a un mouvement un peu paradoxal qui est que d'un côté, l'ouverture aux sages-femmes, l'ouverture aux médecins généralistes en médecine de ville, etc., a eu pour conséquence qu'il y a plus d'endroits où on peut accéder à l'IVG. Mais en même temps, le mouvement, c'est la concentration de l'hôpital public, la fermeture des petites maternités locales, ce qui fait qu'en fait, il y a une désertification médicale qui se produit aussi et qui est valable aussi pour l'avortement. Mais là, bon, c'est pas un problème spécifique à l'avortement, ça. Un problème beaucoup plus général de sous-dotation hospitalière, notamment dans les espaces ruraux, etc.
Bah, moi, je vais essayer de poser ma question clairement, même si dans ma tête, c'est un petit peu confus. Mais j'ai l'impression qu'en fait, on voit se dessiner un espèce de face-à-face entre les femmes et l'État concernant la question du travail procréatif, on va dire, avant la naissance d'un enfant, puisque on l'a dit aussi avant la pause, hein, les questions contraceptives ne concerneraient que les femmes, les questions abortives ne concerneraient que les femmes qui doivent se débrouiller avec les injonctions diverses et variées, alors qu'une fois qu'il y a un bébé, bah, tout d'un coup, la question du droit des pères, la question de la famille revient sur le devant de la scène. On l'a vu encore très récemment avec les déclarations, alors j'allais dire les annonces, mais en fait c'est juste à l'état de déclaration pour l'instant de Macron sur le fait que les pères devraient avoir un devoir de visite pour leurs enfants. Ce que je me demandais, c'est comment la question de l'avortement, justement, s'immisce là-dedans, ou enfin s'articule là-dedans, quoi. Est-ce que, justement, les militantes féministes essayent de ramener la question du côté des deux partenaires, c'est-à-dire faire du travail procréatif un travail un peu mieux divisé entre les femmes et les hommes. Est-ce qu'elle relie ça aussi à ces questions ensuite familiales qui sont presque, on va dire, où là, pour le coup, leur place, finalement, elle est minimisée. En tout cas, on essaye de rééquilibrer. En gros, c'est ça le discours des pouvoirs publics quand ils sont plutôt du côté conservateur. Hein, les femmes auraient trop de pouvoir avec les enfants, auraient trop de pouvoir dans la famille, etc. Est-ce que c'est des questions qui s'articulent, en fait, voilà. Est-ce que c'est des questions qui s'articulent dans les mouvements féministes aujourd'hui ou pas du tout? Est-ce que c'est des questions qui sont complètement séparées? Voilà, c'était C'est un peu ma question en termes de réflexion à la fois militante et de normes sociales, de regard social sur ces différentes étapes de la vie, quoi, on va dire.
Alors, sur la place des hommes, il y a eu un regain d'intérêt, notamment il y a eu un rapport qui avait été commandé par l'ANSIC sur les hommes et l'IVG, qui voulait un petit peu aussi sensibiliser les hommes sur la question de l'IVG. Ce qu'on s'est aperçu dans ce rapport-là, c'est que, en fait, certains hommes sont prêts à s'investir aux côtés de leurs partenaires dans un processus de prise en charge pour un avortement. Cependant, dès lors qu'on leur dit, on leur demande s'ils sont prêts à assumer la contraception, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, on voit quand même que ça s'articule, mais qu'il y a quand même des points de rupture. Pour la question effectivement de la place des hommes, je pense pas que les transformations révolutionnaires sur la place des hommes. Alors oui, il y a des avancées, mais en fait qui sont encore, que je trouve encore beaucoup trop lentes. En fait, on sait très bien aujourd'hui que, l'avortement nous informe bien aussi sur le fait que les femmes ont conscience des limites de ce qu'on appelle, entre guillemets, les politiques concernant l'articulation vie familiale, vie professionnelle. Enfin, on voit très bien encore aujourd'hui que les femmes ont totalement intégré qu'il y a une division sexuée du travail parental et que c'est les femmes qui vont avoir des effets drastiques sur leur carrière professionnelle et sur leur temps, en fait. Donc, je pense que c'est des questionnements qui forcément s'articulent, parce que c'est les mêmes femmes qui avortent, qui se contraceptent, qui ont des enfants. C'est pas y a les bonnes et les mauvaises élèves d'un côté et de l'autre. C'est des femmes qui finalement sont à différentes étapes de leur trajectoire et qui finalement sont confrontées à une pluralité de questions du fait effectivement du temps, du moment auquel ça s'insère. Ce que je trouve très intéressant, c'est que j'avais rencontré une femme, une enquêtée pendant ma thèse, qui était une militante féministe très critique de la médicalisation du corps des femmes, qui avait lutté pour ne pas avoir une contraception médicalisée. Il y a une critique de la médicalisation un petit peu du corps des femmes qui se décline un petit peu différemment en Amérique du Nord et qui disait « Oui, mais sauf qu'à partir de la naissance de mon premier enfant, j'ai demandé à ce qu'on me mette un DU, parce qu'en fait, j'arrivais plus à tout gérer. Puis, j'allais pas chipoter sur quel type de DU. En fait, il fallait que le problème soit réglé parce que j'avais d'autres choses à penser à ce moment-là. Donc, on voit bien qu'il y a des moments où, en fait, il y a des espèces de luttes qu'on peut mener parce qu'on a l'espace temporel, mental pour le faire. Puis, des moments où les femmes sont complètement, sont obligées de placer certains de leurs combats en arrière-plan, prises dans les difficultés, on va dire, directes de la gestion familiale où se reproduise la division sexuée du travail parental, mais aussi domestique.
Et est-ce que, en parlant de ça, on pourrait revenir justement sur le regard social de l'avortement aujourd'hui, parce qu'on a ouvert le dossier du jour là-dessus, et tu disais finalement ce regard social, il n'a pas tellement changé, ça reste stigmatisé, ça reste encore la charge mentale pour les femmes qui décident, et puis qui après, en tout cas dans l'imaginaire social, doivent gérer le fait d'avoir avorté. En fait, on ne leur laisse pas la possibilité de ne plus y penser. En fait, on ne leur laisse pas la possibilité, ou même la possibilité de ne rien en penser. C'est ça qui est aussi un peu particulier concernant l'avortement. Est-ce que tu peux revenir sur ce regard aujourd'hui, avec toutes les avancées dont on a parlé, toutes les avancées légales dont on a parlé?
En fait, le paradoxe qu'il y a aujourd'hui, qui était le paradoxe un peu initial de ma thèse, qui a un peu bougé depuis, mais pas tant que ça, c'est qu'aujourd'hui, en France, de façon relativement consensuelle, on est plutôt pour le droit à l'avortement. C'est-à-dire qu'être contre, c'est vraiment être un vieux conservateur catho.
Bien sûr, c'est ce que tu disais aussi sur la clause de conscience.
En fait, les médecins ne peuvent
plus dire « moi, je ne fais pas d'avortement par... »
C'est ça. Et même des partis d'extrême droite, comme Marine Le Pen. Marine Le Pen, depuis la révocation de Roe versus Wade en 2022 aux États-Unis, elle a changé son discours sur l'avortement. Donc en fait, ce qui s'est passé aux États-Unis, ça a conduit en France à vouloir entrer dans ce processus de constitutionnalisation pour sanctuariser. Mais aussi, c'est une façon de se distinguer à la française. L'enjeu n'est pas forcément d'assurer l'autonomie des femmes. L'enjeu est plutôt de dire la France, c'est pas l'Amérique. Il y a des vrais enjeux autour de ça. Donc ce discours-là, il montre quand même qu'on est dans un moment social où avorter, c'est considéré comme quelque chose qui doit être possible. En revanche, c'est pas parce que ça doit être possible que c'est bien. Donc, il faut absolument l'éviter quand même, parce que y a la contraception médicale qui est censée être efficace, et qu'en fait, les représentations dominantes, c'est si t'es enceinte sans le vouloir, c'est que t'as pas fait le taf pour ne pas être enceinte. Ce qui, évidemment, invisibilise toutes les inégalités dont on a parlé, qui est responsable de la contraception, comment on fait du sexe, qu'est-ce que ça veut dire avoir un enfant aujourd'hui en France, c'est quand même là aussi travailler. Voilà. Et donc, moi, l'enjeu de ma thèse, c'était de dire, on a un paradoxe, qui est que d'un côté, tout le monde dit à peu près, c'est OK d'avorter, à la condition que tu n'en parles pas, et que tu le fasses en silence, et que t'en aies un peu honte.
Et que tu le fasses qu'une fois.
Et que tu le fasses qu'une fois. Mmh. Enfin, à plein de conditions, en fait.
Oui.
C'est-à-dire qu'on le tolère. On le tolère, c'est OK, mais pas complètement. Et moi, c'est cette tension-là, ce truc de « c'est grave, mais pas trop », « t'as le droit, mais c'est pas très bien », que j'avais envie d'explorer. Et en fait, passer par l'enjeu stigmatisation, c'était une façon de montrer que ce qu'on appelle en sciences sociales les normes, c'est-à-dire les valeurs qui sont partagées et qui contraignent les gens à se comporter d'une certaine façon, ont évolué, mais restent quand même extrêmement contraignantes. Et alors, aujourd'hui, on est quand même dans un moment féministe relativement fort. Moi, mon enquête, elle a été menée pendant hashtag MeToo. Et donc, le discours est déjà en train d'évoluer parce qu'on prend conscience, en fait, de plus en plus, qu'il y a des choses qui ne sont pas admissibles, etc. Mais quand on regarde, l'avortement reste quand même le parent pauvre, notamment si on pense à toute la campagne sur les violences gynécologiques et obstétricales. Ça, c'est plutôt 2018 que ça arrive en France. En fait, il y a eu beaucoup de témoignages d'accouchements très traumatiques. Il y a eu très peu de témoignages d'avortements, alors même que des violences abortives, il y en a, bien évidemment.
Oui, il y en avait eu en amont, avec notamment le site J'ai avorté, je vais bien, merci, qui en fait a pas du tout eu la même visibilité que d'autres recueils de témoignages sur d'autres expériences. Mais je pense qu'effectivement, il y a aussi la question de... les travaux qu'on a cités précédemment de Nathalie Bajos et Michel Ferrand sur la question du paradoxe de l'avortement a permis un peu d'avancer, de déconstruire le lien de causalité entre contraception et avortement, mais aussi de faire apparaître ce chiffre d'une femme sur trois a ou aura un avortement dans sa vie, qu'on a retrouvé dans les collages des colleuses, dans les rues parisiennes, lyonnaises, qui a aussi amené à une espèce de réalité de « il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'incompressible ». Dans l'avortement. C'est pas parce qu'on va mettre toutes les femmes sous médicamentation pour les contracepter de la façon la plus efficace que finalement on évitera les avortements. Et en fait, ça a un peu comme normalisé. Après, ce qu'on a voulu souligner aussi dans le bouquin, c'est qu'il y a quand même des évolutions des représentations de l'avortement où on tente de plus en plus un petit peu. Alors, dans les séries, alors on n'est pas encore à montrer un avortement. Même si, par exemple, des films comme Annie Colère sont dévoilés, des parties intimes, donnent à voir finalement les gestes de l'avortement. Mais dans les séries, on voit apparaître d'autres formes de représentation que l'avortement drame ou désespoir ou détresse ou traumatisant, comme on l'a pendant très longtemps porté dans les médias. Ou alors Alors, j'avais une directrice de thèse, j'espère qu'elle ne m'en voudra pas, Michel Ferrand, mais qui regardait Plus belle la vie et qui est capable de dire que dans Plus belle la vie, il y a 4 avortements et que sur ces 4-là, un se finit par une fausse couche, donc finalement, il n'y a pas une confrontation. Un autre, finalement, la femme décide de garder la grossesse non prévue. Enfin, où il y a des dénouements qui euphémisent, en fait, la question de l'avortement ou alors qui la dramatisent en faisant un acte profondément traumatisant qu'on regrette toute une vie. Et ce qu'on voulait montrer, notamment par un petit encart sur les séries et les films, c'était montrer qu'il y a des représentations qui sont en train de changer quand même, qui ne peuvent être pensées indépendamment de qui produit et qui fait aussi les séries, les films, voilà.
Parce que la stigmatisation de l'avortement, ça a quand même des conséquences sur la santé des femmes en général. C'est pas anodin, en fait.
En fait, l'intérêt de comprendre, enfin les enjeux de la stigmatisation, c'est pas de dire il y a des méchants gens qui pointent du doigt d'autres personnes vulnérables, c'est de dire ça s'inscrit dans des rapports de pouvoir et ça a des conséquences qui sont des conséquences réelles. En fait, dire à une femme qui avorte quand même t'aurais pu prendre ta contraception ou t'avais qu'à pas écarter les cuisses, c'est venir resignifier à quelqu'un que sa sexualité n'est pas légitime et qu'il fallait qu'elle se contracepte. Et enfin bon, on peut décliner les exemples à l'infini, mais l'enjeu c'est de dire qu'il y a une réassignation des femmes à une position dominée dans la stigmatisation. Et le problème, c'est que ça a des effets très réels, notamment dans l'accès aux soins, et que ben, si vous êtes prise en charge par un médecin qui vous fait une remarque, peut-être que vous n'irez pas faire votre visite de contrôle. Sauf que peut-être que vous avez un bout de membrane accroché dans l'utérus, du coup ça fait une infection, et du coup vous n'êtes pas prise en charge, et du coup il y a des complications. Et en fait, ce qu'on voit en France, mais aussi dans des enquêtes à l'international, c'est que la stigmatisation a des effets sur la santé physique des femmes, mais aussi évidemment sur la santé psychique, parce qu'en fait, devoir gérer le stigmate, à qui on en parle, à qui on n'en parle pas, se taire, etc., ça peut aussi être une charge émotionnelle forte. Et en fait, quand on dit les femmes vivent mal l'IVG, bah ça peut être aussi qu'elles le vivent mal juste parce qu'elles ne peuvent pas en parler ou parce que quand elles en parlent, on leur dit, soit on leur dit c'est pas bien, soit on leur dit oh ma pauvre petite. Et c'est performatif, en fait. Si on vous dit « comme tu dois te sentir mal », c'est sûr qu'on ne se sent pas bien. Enfin, tout simplement, en fait. Donc, ça a vraiment des effets réels sur l'expérience abortive des femmes dans leur ensemble, qu'elles soient médicales, que ça soit avec leurs partenaires, avec leurs proches, leurs familles, leurs amis, etc.
Et en prenant, on va dire, la forme la plus stigmatisée, alors tout à l'heure, on soulignait la question du recours multiple à l'avortement qui est en croissance, hein, ce qui s'explique par des transformations sociales, qui est très fortement stigmatisé. Mais par exemple, les avortements en délai dépassé sont l'objet d'une stigmatisation encore plus forte. Et en fait, on voit très bien que les femmes, en fait, ont d'autant plus de difficultés d'avoir accès à l'information, se retrouvent dans des situations très angoissantes. Et en fait, toute une série de choses qui va participer d'une expérience négative, alors que si justement on facilitait effectivement l'accès à l'information, que les professionnels de santé en parlaient sans le présenter comme quelque chose d'horrible, voire même de dangereux, en fait, bah, sans doute le vécu serait complètement différent. Et je trouve ça intéressant parce que les avortements délai dépassés, ils hypertrophient véritablement beaucoup de mécanismes, même sur la question du travail abortif, de mécanismes qu'on a observés sur des terrains où finalement on était plus sur des expériences contemporaines d'avortement, mais on va dire IVG, on va dire ordinaire. Et en ça, je trouve que c'est là où on voit, se donne à voir un petit peu les effets. Comme le souligne Laurine, en fait, la question des violences obstétricales et maltraitances gynécologiques, on a très peu parlé de la question de l'avortement. Mais encore aujourd'hui, en fait, on parle très peu des améliorations possibles des prises en charge, des avortements de façon générale. Tout ce que j'ai signifié, par exemple, tout à l'heure sur mon émerveillement par rapport à une prise en charge au centre de santé des femmes de Morel qui a évolué depuis l'époque où j'ai fait les observations. Mais on voit bien que cet enjeu d'amélioration de la prise en charge n'est pas quelque chose d'aussi fortement porté que d'autres sujets en termes de santé.
Alors que justement, par exemple, aujourd'hui, il y a quand même une espèce de vague, en tout cas sur les questions de féminisme, qui est très, très présent sur différents sujets. Mais est-ce que là, il y a une place particulière de l'avortement aujourd'hui dans les nouveaux féminismes contemporains?
Alors je dirais, ce qui est marrant, c'est que l'avortement a été ce qu'on a appelé un des sujets, un cheval de bataille très fédérateur pour ce qu'on a appelé les féministes de la seconde vague. À l'époque où je commence ma thèse, l'avortement n'intéressait que très peu de personnes. Je pense que Laurine aussi a été aussi un peu confrontée à ça. En fait, on était sur une période où tout le monde considérait que c'était réglé, le problème de l'avortement, qu'il n'y avait plus de vraies problématiques, que la loi Veil avait évolué, que voilà, il y avait eu toutes ces améliorations. Donc finalement, à chaque fois qu'on s'interrogeait sur la question de l'avortement, c'était toujours à l'étranger, quand il y avait des retours en arrière, que finalement, je repense à la Pologne, je repense à d'autres pays, où là, soudainement, il y avait un intérêt. Mais en fait, on s'en foutait un peu de l'avortement au contexte français. Et ce qui a été très intéressant, donc on avait amorcé le livre avec Laurine, donc survient en chemin la remise en question de l'arrêt Roe & Wade, qui donc remet en question ce qui permettait sur le territoire fédéral états-unien de pouvoir avorter, hein, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des restrictions au niveau des États, mais au niveau fédéral, il y avait cette jurisprudence qui permettait que les avortements soient pratiqués. Bah, soudainement, regain d'intérêt sur la question de l'avortement comme jamais, et notamment avec cette grande cérémonie de constitutionnalisation de l'IVG que je trouve on n'est pas assez critique sur le contenu du texte qui ne change strictement rien, puisque la loi, oui, c'est une liberté garantie des femmes de choisir, mais seulement dans le cadre de la loi, et la loi peut totalement être amenée à changer. Donc en fait, on a organisé une grande cérémonie. Moi, je suis très mal à l'aise par rapport à cette question-là, où j'ai l'impression qu'on on se fout un peu des femmes et en plus tout le monde applaudit.
C'est de la com, quoi.
Voilà.
C'est de la com politique.
Oui, qui est par ailleurs très efficace parce que ça permet de dire regardez tout ce qu'on a fait pour le féminisme sans se poser la question des vrais enjeux, sans donner des moyens aux hôpitaux, sans former les professionnels de santé. Enfin, en fait, voilà, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, quoi.
Et là, il y a les élections. Parce qu'il y a toujours des enjeux aussi au niveau européen, et là il y a les élections, alors on sent que l'avortement est un sujet où il y a de fortes inégalités, on a parlé de la Pologne, mais il y a Malte, bon, il y a Andorre évidemment qui est un minuscule pays mais qui n'a pas l'avortement, donc peut-être parler aussi de ce qui se passe dans les enjeux vraiment proches sur l'avortement.
Alors, au niveau européen, il y a un fort lobbying quand même des anti-choix. Enfin, et je pense qu'il faut demeurer quand même relativement vigilant et vigilante, notamment parce que beaucoup de partis de droite, d'extrême droite sont contre l'avortement et le déclarent ouvertement.
Sauf s'il s'agit de populations non désirées, voire enfin non désirables. En fait, on n'en a pas du tout parlé pendant le
non blanche.
Alors... Ouais, c'est ça. On n'en a pas du tout parlé pendant le dossier, mais c'est vrai que cette problématique de l'avortement, elle est indissociable aussi de la problématique de la stérilisation de certaines populations, en tout cas de la volonté, du fantasme de stérilisation de certaines populations.
Et il faut le rappeler hein, que historiquement,
si on parle de l'Europe aujourd'hui. Hein.
Historiquement, en France même, il y a eu entre guillemets une déclinaison entre les territoires qu'on dit ultramarins, où il y a eu quand même une promotion très forte de la contraception et même la pratique d'avortement forcé, de stérilisation forcée, alors même qu'en France hexagonale, on arborait en fait l'interdiction et on faisait tout pour lutter contre l'avortement. Donc même au sein même de la nation française, il y a eu cette question des droits enfin, procréatifs à deux niveaux, quoi, enfin, et même contradictoires. Mais effectivement, il y a cette idée de... Et ce qui est marrant, c'est que quand même, avec le temps, il y a eu des évolutions. Hein. Il faut voir qu'aussi, une des restrictions qu'il y avait dans la loi initialement, c'était la question de l'accès aux personnes qui étaient sur le territoire, mais qui étaient comme d'origine étrangère ou qui n'avaient pas de résidence depuis plus de 3 mois. Et en fait, progressivement, il y a eu quand même des améliorations pour que toutes les femmes puissent être prises en charge sur le territoire. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des vrais problèmes d'inégalité. Enfin, quand on pense aux territoires ultramarins, voilà, il y a aussi un avortement délai dépassé quand on est en Guadeloupe ou en Martinique. C'est pas les mêmes frais que, par exemple, quand on est à Paris et qu'on peut faire un aller-retour aux Pays-Bas. Voilà, c'est à tenir compte. Et en fait, on en parle peu de ces questionnements-là.
En tout cas, Marie et Laurine, c'était un plaisir de discuter avec vous de l'avortement. Vous recevez à l'occasion de la sortie du livre Sociologie de l'avortement, c'est publié aux éditions La Découverte dans la petite collection Repère. On espère vous recevoir plus tard pour la suite de vos recherches, puisque vous êtes toutes les deux fait vos doctorats et vous faites de nouvelles recherches. Et puis merci d'être venue en plateau.